Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. En RDC, la situation se dégrade dans la province du Sud Kivu. Le M23, appuyé par des troupes rwandaises, poursuit son avancée en direction de Uvira après avoir pris le contrôle de Bukavu. Et tout ceci se passe alors sous le regard passif de l'Union africaine qui vient d'avoir un nouveau président de sa commission, le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse et nous allons en parler dans cette émission, bien sûr, du vendredi 21 février 2025. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité, tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin dans les kiosques, bien sûr. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, ce vendredi bien sûr, c'est Kiki Sousa qui est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là vous comprenez sans doute que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous suivre alors sur nos médias sociaux, c'est-à-dire nos plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, confrères déjà en studio, Cyril Sablassou, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les invités, bonjour chers confrères, bonjour à tous les auditeurs de la radio Canal FM. C'est un plaisir de partager cette émission, partager ce plateau-là avec les confrères.
Le plaisir est partagé, bien sûr. Merci d'avoir répondu à notre invitation, puisqu'il y a des sujets que nous allons aborder tout de suite et vous avez évoqué cela alors dans votre journal, bien sûr. Nous allons parlerons dans cette émission. Gabin Adjaho, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de la radio Canal FM. Merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir répondu aussi à l'invitation. Je ne sais pas pourquoi vous avez préféré être en casquette alors ce matin.
Oui, j'ai préféré vous écouter directement et pas en mondial diffusion ou autre. Là, voilà. Je veux que ça rentre bien.
Oui, mais ce qui est sûr, vous êtes également très élégant avec votre casquette.
Ah oui, c'est le vendredi, on se détend.
C'est l'essentiel.
Ah oui, on change de style.
Justement. Kofi Annani, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien.
Dieu merci.
Nous sommes au jour du démarrage des cérémonies funéraires du maire du Golfe 6. Nous pouvons prier, que son âme repose en paix.
Puisque vous êtes dans la commune.
Oui.
Voilà.
Donc, nous prions que son âme repose en paix.
Tout
et
à
que
fait.
La cérémonie se passe bien.
Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait ce rappel. Nous attendons notre confrère Thierry Afanoukoui et aussi Firmeteko Agbo qui seront incessamment bien sûr dans cette émission. Mais bien avant de commencer avec les confrères, nous allons parler de ce préavis alors de grève qui sévit ou du moins ce qui a été lancé déjà par Saint-Banque. Et nous avons en studio avec nous les responsables alors de Saint-Banque. Il y a Monsieur Nyamiku Kudjo Nestor. Monsieur Nyamiku, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
J'espère que vous allez bien.
Ça va bien. Ça va. La grâce de Dieu.
Dieu merci. Ça va.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le secrétaire général adjoint du Saint-Banque chargé des assurances, bien sûr.
Merci beaucoup.
C'est ça. Voilà. C'est merci ça. D'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup.
Et à vos côtés, nous avons aussi monsieur Bombama et Pakidam Camille. Monsieur Bombama, bonjour.
Bonjour, Pascal. Comment vous allez?
Ça va pas la grâce. J'espère que vous allez bien.
Je salue tous les camarades et confrères, consoeurs qui sont actuellement à l'écoute de cette émission.
D'accord. Alors, vous êtes secrétaire général adjoint du Saint-Banque, bien sûr, la session banque, c'est bien ça. Alors, monsieur Nyamiku, c'est vrai, nous parlions même d'ailleurs de ce préavis de grève, surtout à Sunu Bank, c'était hier, oui. Avec les confrères en studio, notamment le confrère de la Nouvelle Tribune et l'homme Atis Obé. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe à Sunu Bank? Monsieur Nyamiku.
Merci beaucoup pour les uns et les autres. Ce qui se passe à Sunu Bank est très inquiétant. C'est pour cela que nous sommes autour de ce plateau ce matin pour en débattre et faire connaître la situation à la population togolaise. C'est-à-dire que c'est la population togolaise qui est concernée à ce qui se passe à Sunu Bank aujourd'hui. Et ce qui se passe à Sunu Bank aujourd'hui est très alarmant. C'est-à-dire que bon, il y a effritement de nos dépôts, c'est-à-dire les épargnes, où les trouver aujourd'hui parce qu'il y avait, il y a eu une mauvaise gestion. Et ce qui se passe aujourd'hui à Sunu Bank, c'est un licenciement collectif pour motif économique qui est lancé, alors que le directeur dit que ce licenciement est irréversible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce licenciement pour motif économique? Alors que bien avant, la caisse d'épargne a évolué vers la Banque Populaire de Crédit et d'Épargne avant que Sunu Bank ne vienne prendre la situation en main. Est-ce que au départ, les compatriotes qui ont dirigé la caisse d'épargne, la Banque Populaire, comment est-ce qu'ils ont géré avant que Sunu Bank ne vienne prendre la situation en main? Et quelques années après, on sent qu'il y a eu une mauvaise gestion. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que même les fonds propres sont dilapidés. Les fonds sont dilapidés. Il y a eu des comportements désobligeants et déshonorables de la part de ceux qui dirigent la banque jusqu'à ce jour. Alors bon, sur les carreaux, ils veulent mettre, c'est les Togolais qu'ils veulent mettre sur les carreaux. Bon, les épargnants qui sont là, les petits épargnants de nous Togolais qui sont là, sont dilapidés. Mais c'est nos frères. Eux, ils sont venus avec quoi? S'asseoir sur nous encore. Et ils décident de leur propre gré que nous, on sera licenciés. C'est là le problème. Nous ne comprenons rien. C'est pour cela que nous sommes là sur ce plateau, pour crier haut et fort et sonner la sonnette d'alarme, tirer l'oreille aux gens pour voir de près et même jusqu'aux autorités politiques. Parce qu'à un moment donné, nous sommes sous la coupole des autorités politiques. Il faut qu'ils nous entendent. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'ils prennent des décisions idoines pour arrêter cette hémorragie qui se passe à Sunu Bank. Pourquoi les autres banques ne crient pas? Vous allez voir aujourd'hui qu'après 10 ans, Coris Bank présente une situation. Coris Bank présente une situation que les gens applaudissent. Pourquoi Sunu Bank ne présente pas une situation que les gens peuvent applaudir, mais présente une situation alarmante, inquiétante, inquiétante.
On a appris même d'ailleurs qu'il y a certaines agences qui sont fermées.
Il y a des agences qui sont fermées, il y a 7 agences qui sont fermées. Encore dans les 7 agences, ce n'est pas que les employés seront redéployés, mais ces employés seront licenciés.
C'est bon?
Oui, c'est ça.
Alors, mais monsieur Bombama,
oui,
mais quand on écoute ça, on se dit, mais comment se fait-il qu'il y a une situation ainsi? Et jusqu'à présent, peut-être, c'est vrai, vous avez lancé un préavis de grève, mais comment ça s'est arrivé jusqu'à ce que vous arrivez, enfin, vous êtes arrivé même d'ailleurs à ce point?
Oui, merci Pascal. Je dirais, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est depuis 2018 et que ça a commencé. Et on essaie de négocier. Vous savez que l'argent n'aime pas le bruit.
Tout à fait.
Donc, on n'a pas voulu effrayer nos déposants. Alors, on tente de négocier, de parler avec nos dirigeants, c'est-à-dire nos directeurs, nos employeurs. Mais on a compris qu'ils font le sourd d'oreille et ils ne veulent pas nous écouter. parce que vous n'êtes pas sans savoir que déjà en décembre, on avait voulu lancer une grève et ils nous ont convoqués à la direction du travail. On les a écoutés et ils ont fait des promesses.
Et concrètement, qu'est-ce qu'ils ont dit ?
Ils ont dit qu'ils vont tenir à leurs promesses, ils vont changer le cours des choses, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, ils demandent à compresser 70 personnes. Ils ont commencé par 120 personnes, maintenant ils sont arrivés à 70. Et c'est 70 par la fermeture de cette agence qui couvre le territoire. En moyenne, 13 personnes également seront renvoyées. Ce n'est pas qu'ils seront déployés, mais ce sont des personnes ciblées qui sachent qu'ils allaient fermer l'agence. Ils les ont envoyés là-bas, fermer les agences et les licencier. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Parce que ces personnes-là ne voulaient pas se taire. Ils ne voulaient pas que la banque s'écroule. Parce qu'ils se disent, BPEC était là, ça a marché. Banque Populaire est arrivée, ça a marché. Pourquoi pas chez vous? Ça ne peut pas marcher. Mais finalement, on était allé plus loin. On a compris que c'est la direction qui faisait des gestions malsaines et qui ont conduit la banque à ce niveau. Ils ont multiplié leur salaire par 6, par 7. Et maintenant, nos petits frères qui ont tenu la banque depuis le temps de la caisse d'épargne jusqu'à ce jour, et ce sont eux qui voulaient mettre hors de la banque. Et de surcroît, leur donner un mois de salaire. Plus la prime de fidélité qui peut-être sera calculée pour l'État. Et d'aller rentrer chez vous. Il n'y aura même pas des mesures d'accompagnement que les employés allaient profiter pour faire vivre leur famille. On vous dégage et puis c'est fini. Vous partez chez vous. Et ils vont jusqu'à dire qu'on n'a qu'à retourner au champ. Si on était au champ, on n'allait pas garder la banque jusqu'à ce qu'eux viennent acheter. Si on était au champ, c'est pas avec la roue qu'on allait arranger la banque. Donc on s'est dit non, que ça suffit. Et puis, quand tu veux aller voir nos autorités, ils se disent, allez les voir. Que nous, on n'a pas affaire avec ces petits ministres. Comment vous osez traiter nos ministres comme de petits ministres? Ce sont nos autorités. Donc ça veut dire que vous avez mis le pied sur quelque chose, c'est pourquoi vous le dites. Alors nous allons sortir de nos gants et on va voir ce que ça va donner.
Mais c'est ça le licenciement, c'est vrai. C'est vous parlez de licenciement abusif, monsieur Nyamekou. Mais c'est au-delà de ces personnes qui seront licenciées, c'est des familles qui sont derrière.
Bien sûr.
C'est des familles qui sont derrière. Merci beaucoup pour avoir vu de justesse au-delà les comportements, les conséquences qui sont liées à ce licenciement. C'est des familles qui sont derrière parce que quand tu licencies une personne aujourd'hui au niveau de la banque ou bien dans une société de la place, c'est toute une famille qui est derrière. Ta famille même congrue à ta femme, tes enfants, ton père s'il est vivant, ta mère s'il est vivante, tes soeurs, tes cousines, etc. Mais c'est tout ce qui constitue le goulot d'étranglement parce que on vient assassiner toute une population vivante. Mais est-ce que nous nous posons la question de savoir si cette pratique, c'est des étrangers qui sont là, si cette pratique peut se faire aussi également chez eux, comme ils sont en train de faire ici, avec la sourde oreille, même en insultant nos ministres. Regardez un tout petit peu les délégués qui sont dans les institutions. Ils osent écrire à la direction du travail de leur donner autorisation pour licencier même des délégués élus. Les délégués qui sont une émanation nationale.
Qui sont protégés.
Qui sont protégés, c'est des protégés. Eux-mêmes, ils parlent. Licencier les protégés. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Ceux qui sont assis sur vous, vous avez travaillé pendant des années. Et ils sont venus voir la banque très florissante. Et voici là où nous étions, nous sommes arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Pourquoi les nôtres n'ont pas géré comme ils ont géré aujourd'hui? Et c'est eux qui viennent mettre les gens sur les carreaux. C'est là la question, c'est pour cela que bon, une grève de 72 heures, ça ne dit rien. Si ça impacte toute la corporation, cela veut dire que ça sera grave un jour. Parce que nous n'allons pas nous limiter là. Puisqu'ils disent qu'ils iront jusqu'au bout, nous aussi nous irons jusqu'au bout. Aussi, s'ils menacent,
c'était déjà, on a même aussi, déjà convoqué une assemblée générale qui aura lieu demain. On a convoqué une assemblée générale de toute notre corporation qui aura lieu demain à 15h à notre siège et pour leur dire que ça suffit.
Celle de Saint-Banque que vous voulez
dire? De Saint-Banque, oui, bien sûr, que ça suffit. Parce que quand nous sommes rentrés au fond du problème, qu'est-ce que nous avons trouvé? Il y a le copinage. C'est-à-dire que ce sont leurs proches qu'ils embauchent en leur multipliant les salaires par 6, par 8. Il y a aussi le non-respect de notre convention collective actuellement qui est là. Et puis, à côté de ça, nous voulons, le syndicat, le Saint-Banque, nous voulons qu'ils ajournent, c'est-à-dire qu'ils arrêtent ce problème de choses de licenciement, par les choses de licenciement économique, qu'il arrête carrément, qu'il arrête. Au cas contraire, nous allons appeler les autres banques, on va tous rentrer dedans et on va voir ce que ça donne.
Alors, la grève de 72 heures, c'est prévu pour quand, monsieur Nyamiku?
À partir de lundi.
À partir de lundi.
À partir de lundi, ce lundi.
Bien sûr, à partir de lundi. Mais la grève de 72 heures, c'est limité d'abord au niveau de Sunubank. C'est les délégués avec les employés qui rentrent en grève à partir de ce moment-là. Pour signifier à l'opinion publique, aux autorités politiques publiques qui sont là, que c'est ainsi qu'il y a la grogne dans cette banque. Vous, les déposants qui sont là, vous-même qui avez des dépôts dans cette banque aujourd'hui, je ne pense pas si vous avez 10 millions, vous pouvez aller en banque pour racler les 10 millions. On vous dira non, qu'ils ne sont pas en mesure de vous donner les 10 millions. Mais écoutez, une fois, lorsqu'il y a une facture les concernant aujourd'hui, 200 millions, 250, 75 millions, ils vont essayer de les régler parce que c'est ce qu'ils font des pratiques. Qui ne sont pas familiers à la déontologie, c'est ce qu'ils pratiquent. Ils font délocaliser ce montant dans un autre compte et c'est pour eux à se mettre en poche. C'est des pratiques qui se font dans la banque qui ne sont pas orthodoxes. Malgré qu'il y a la commission bancaire, est-ce que la commission bancaire autorise cette pratique? C'est parce que la commission bancaire ne peut pas autoriser cette pratique. Les États qui ont signé que la commission bancaire soit supranationale, mais au-dessus de nos lois nationales, la commission bancaire doit leur indiquer des procédures à suivre. C'est pourquoi ils ont des lois, c'est pourquoi ils ont des règlements. Mais force est de constater que ces lois et règlements ne sont pas suivis. Ne sont pas suivis. C'est pourquoi mon frère vient de dire tout à l'heure qu'il y a des crédits vraiment de proches.
Des crédits sous couvert. On fait crédit à un client qui a atterri sur le compte d'un autre client.
Voilà.
Une société, l'ordinateur qu'on peut acheter aujourd'hui à 500 000 à 600 000, on le loue à 4 millions par an pour faire de l'argent.
Un ordinateur?
Bien sûr. Un ordinateur, tout comme ce que vous avez
c'est
là-bas.
C'est la sous-traitance.
C'est la sous-traitance. On loue des ordinateurs à 4 millions d'unités par an. Alors que cette potentialité peut permettre d'acheter des ordinateurs pour tout un chacun dans la société. On fait des crédits bidons. On avalise des traites. Les gens n'existent même pas. De plus de 400 millions. Et on contourne pour aller toucher à l'intérieur du pays. On fait des crédits à un autre État. Le crédit atterrit sur un compte de particulier. Je parle de milliards, de 7 à 8 milliards, bien sûr. Nous sommes sur les ondes, je ne vais pas mentir dans le compte de quelqu'un. Si la commission bancaire vient, il peut découvrir qu'ils ont fait un crédit à l'État sénégalais qui aujourd'hui se trouve sur le compte d'un particulier, qu'on ne trouve même pas. Et ces crédits restent impayés, sans caution, sans assurance. Ça dit bref, sans garantie.
D'accord. Monsieur Nyamiku, est-ce que finalement vous avez fait des démarches pour aller voir les autorités? Et si ces démarches, oui, vous les avez faites concrètement, qu'est-ce qui a été ressorti alors de ces démarches?
Au finish. Les démarches que nous avons faites sont limitées ou sont limitées à la direction des assurances, c'est-à-dire que la direction de Sunubank, avec nous, les délégués de Sunubank et le syndicat, nous sommes assis face à face comme nous sommes assis autour de cette table. Nous n'avons pas encore dépassé ce stade de la direction des assurances pour l'autre côté, c'est-à-dire les autorités politiques. C'est là où nous nous sommes arrêtés. Et c'est là où mon camarade vient de dire tout à l'heure que la liste prévue pour le licenciement, qui est une liste même arbitraire, parce qu'au demeurant, ils parlaient de masse salariale trop élevée. Ensuite, ils sont revenus sur un motif de notation arbitraire. Ce n'est pas des motifs de notation parce qu'on vous dit que vous êtes improductif désormais. Sur la notation. Qui note? C'est eux qui notent. Alors, on leur dit, la notation est arbitraire, c'est pour cela que nous sommes opposés fermement à ce licenciement. On leur dit de remettre à pied à plat ce licenciement et de revenir à zéro.
D'accord.
D'avoir d'autres pratiques plus orthodoxes pour gérer la banque et la faire fructifier et distribuer les produits, c'est comme ça.
D'accord. Oui, mais monsieur Bobama, aujourd'hui, c'est quoi le message? Le message que vous voulez adresser?
Le message est très simple. Nous voulons discuter. Appelez-nous tout autour d'une table et ensemble nous allons discuter. Et que l'employeur soit franche, une discussion franche et sincère. Nous serons là. Parce qu'on a commencé avec la direction du travail, ça n'a pas porté de fruits. Nous leur avons dit notre désaccord. Et aujourd'hui, s'ils veulent, s'ils sont de bonne foi, d'ailleurs, parce qu'ils ont fait plein de promesses quand on était à la direction du travail qu'ils vont en tenir, mais ils n'ont jamais tenu. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui travaille dans une banque, n'a pas l'argent pour soigner sa famille à la maison. Il demande un prêt d'urgence, on ne peut pas lui donner. On lui dit non, que la direction a dit non.
Comment ça?
Voilà. Donc aujourd'hui, on a compris que ce sont eux-mêmes qui sont à l'origine du scandale qui se passe aujourd'hui à Sunu Bank. Et ce scandale, sont eux qui l'ont créé. Ils n'ont qu'à dégager. D'autres qui sont plus compétents vont aller gérer. Nous, notre message, nous voulons nous asseoir à discuter, mais qu'ils renoncent carrément au licenciement, soit au motif économique, qu'ils renoncent. Respecter nos autorités qui sont dans nos pays avant qu'eux ne viennent, de les respecter, de respecter notre convention collective et l'appliquer tout comme nous le demandons. Éviter le copinage, donner la chance à tout un chacun dans la banque d'évoluer. Pourquoi je disais ça? Parce qu'il y a tellement de copinage. Il y a tellement de copinage que ce sont leurs sœurs qui n'ont peut-être pas le diplôme qu'ils vont récupérer pour leur multiplier le salaire par 3, par 5. Si vous avez un poste dans la banque, c'est plus facile. Donner la chance à ceux qui ont ce diplôme-là et qui peuvent postuler à ça, de postuler. La compétence à l'intérieur, on va chercher à l'extérieur pour multiplier le salaire par 4, par 5, par 6. Donc là aussi, on dit non.
D'accord.
On dit non.
Mais d'abord, je ne sais pas si tu as un compte à Sunu Bank, mais quand on écoute les acteurs, ceux qui sont même d'ailleurs et des gens qui sont impliqués hein, déjà dans cette banque, ou le personnel qui, avec ce problème de Sunu Bank, finalement, on dirait quand même que quand on parle de licenciement avec pour motif économique, alors, et finalement, ça ne se comprend pas.
Oui, ça ne se comprend pas pour une banque comme Sunu Bank. C'est un groupe, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, c'est un groupe.
C'est un groupe. Il me semble que le directeur du MOS qui est au Togo, c'est un voisin de l'Est. Il est béninois, si ma mémoire est véritablement bonne. Sunu Bank, c'est une banque qui a évolué. Nous, on a connu la caisse d'épargne qui a permis à nos parents de payer nos scolarités, d'avoir des prêts pour pouvoir lancer leurs petites activités et tout. Et bon, au fil du temps, ça a évolué. C'était devenu banque populaire ou quelque chose du genre. Après, aujourd'hui, Sunu Bank. Le secteur des finances est un secteur très important et très sensible et il ne faut pas blaguer avec. Quand un groupe vient dans un pays, on demande à ce que les compétences sur le territoire national soient exploitées et qu'on mette en exergue ceux-là qui ont quand même la capacité de pouvoir servir ce groupe-là. Maintenant, Sunu Bank est là, mais deux parents ils viennent de parler du fait qu'on est en train de qu'on va parfois chercher des compétences à l'extérieur, des gens qui n'ont même pas véritablement cette capacité-là de pouvoir servir, n'ont pas, ça veut dire que ils n'ont pas plus de niveau que ceux qui sont à l'extérieur, que ceux qui sont à l'intérieur. Donc à un moment donné, il faut se poser la question de savoir à quoi veut jouer véritablement la direction de Sunu Bank. Moi, c'était le jeudi surpassé que j'avais entendu Elom de Nouvelle Tribune qui en parlait de cette affaire-là. Oui, jeudi passé, il en avait parlé. Il avait véritablement pensé le sujet avec Monsieur Ambroise Bonjo. Donc, j'ai commencé par me poser des questions, de savoir si c'était pas un stratagème utilisé par la direction, notamment pour mettre la clé sous la porte, c'est-à-dire pour déclarer la faillite de la banque. Et puis eux, ils s'en ont déjà mis plein les poches, et puis ils vont partir, il y a personne qui va les poursuivre quand un groupe déjà démissionne, ou bien dit que ils veulent compresser le personnel pour motif. Économique, ça veut dire qu'ils avaient déjà planifié depuis le début, ils avaient déjà leur plan et peu importe ce qu'on va faire, ils ne vont pas lâcher du lest. Donc, je pense que le gouvernement doit prendre cette affaire-là de bout en bout. Il ne faut pas attendre que le syndicat vienne d'abord au niveau du gouvernement avant de prendre cette affaire-là par les cornes, parce que c'est très important. Nous parlons en ce moment d'entrepreneuriat et c'est la finance. C'est la banque qui finance les petites et moyennes entreprises et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, si les banques même, là où on cotise, ces banques-là tombent en faillite, ça pose problème. Donc, je pense que le gouvernement doit prendre les taureaux par les cornes et essayer quand même d'interpeller les responsables de la banque et aussi le syndicat pour discuter autour d'une table et trouver une solution. Parce que je ne voudrais pas, tel qu'on l'avait connu par le passé jusqu'à aujourd'hui, certains banques sont devenues IB Bank et autres là, je ne voudrais pas qu'il y ait encore une faillite en ce moment-là où on parle de promotion de l'entrepreneuriat au Togo. Le chef de l'État, c'est son cheval de bataille. À chaque moment, il en parle, l'entrepreneuriat. Il veut créer les conditions pour que les Togolais arrivent à créer des entreprises en un rien de temps, ce qui fait que dans la sous-région aujourd'hui, on a même reçu un prix, que c'est facile au Togo de créer des entreprises. Donc, alors, à quoi ça sert d'avoir des banques qui ne pourront pas financer nos entreprises et que nos fonds qu'on a déposés ne sont pas en sécurité? Ça pose problème. Donc, à un moment donné, je pense que il va falloir, premièrement, je vais demander au syndicat de remonter les informations jusqu'au sommet même de la structure bancaire sous une banque d'abord. Et ensuite, j'interpelle le gouvernement parce que je n'aimerais pas que c'est maintenant la Saint-Banque qui va écrire une demande d'audience au ministère des Finances ou bien à la primature ou bien encore à la présidence avant qu'on ne se saisisse de ce dossier. Quand ce genre d'affaires explose, il va falloir que le gouvernement prenne les taureaux par les cornes et puis change la donne pour que cette banque-là continue pas à exister. D'accord. Et que les Togolais qu'on veut licencier continuent pas à travailler, parce que derrière chaque Togolais qui travaille, c'est toute une famille qui est derrière. Et pas en Afrique, on parle de famille, ce n'est pas la père, ce n'est pas le père, la mère, les enfants, c'est toute une lignée, c'est descendance, ascendance,
c'est la famille élargie.
Donc il faut faire très attention.
Merci beaucoup, Gabin. D'accord, merci beaucoup, Gabin. Alors, monsieur Nyamiku, merci d'être passé alors dans cette émission. Je sais peut-être que déjà à partir de midi, nous donnons la parole à nos auditeurs et sûrement qu'ils auront des questions à vous poser. Merci. Puisque nous allons continuer notre débat ici au Club de la Presse. Merci. Vous pouvez suivre ce débat avec nous et avant quand même que midi ne sonne, et les uns et les autres vous poseront certainement des questions. Merci d'être passé, monsieur Bomarama. Oui. Merci aussi d'être passé. Merci. Monsieur Yannick, vous voulez ajouter quelque chose rapidement
parce que nous ne voyons pas de loin les conséquences de ce licenciement, que ce licenciement peut apporter sur le plan économique. Regardez les pensions, les retraites, ça tombe où? C'est au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cela veut dire qu'il y aura une coupure drastique des pensions. Lorsque les gars arrivent à la retraite, la Caisse nationale de sécurité sociale, sur son plan, son calcul économique, aura la pension nécessaire pour alimenter les postes des pensionnaires. Aujourd'hui, on coupe la pension à un moment donné, alors que vous n'êtes pas encore. Cela veut dire que je ne pense pas que la notion de licenciement économique a trait à une fermeture de l'activité. C'est-à-dire que la banque n'existe plus, que la banque n'exerce plus son activité. Vous voulez licencier, mais vous voulez continuer à travailler. Ce n'est pas ça le licenciement pour motif économique. Le licenciement pour motif économique est encore que les délégués syndicaux qui sont là, eux, c'est les derniers à partir de l'entreprise. C'est là où nous disons qu'ils insultent même nos autorités lorsque c'est des gens protégés et qu'ils écrivent. Voyez-vous, ils écrivent pour demander à les licencier. Les protégés, vous écrivez pour licencier aussi les protégés. C'est où? Nous attirons donc l'attention des autorités sur ces faits. C'est nous qui écrivons nos règles et nos lois visées par l'autorité politique publique. Il ne faut pas qu'ils viennent piétiner ces choses.
Merci beaucoup, monsieur Nyamiku.
Je voulais quand même profiter et ajouter une petite chose. Je souhaiterais, vous savez, dans les autres pays, en principe, quand l'investisseur vient, c'est le national qui est le directeur général et l'investisseur devient adjoint. Je souhaiterais qu'à ce que ça se passe au Togo, il ne faut pas que quelqu'un nous dise qu'il a amené de l'argent, donc il devait être notre DG, on devait être adjoint, ou on n'est même pas adjoint, et on se lève un matin pour nous mettre à la porte. Donc j'interpelle également le gouvernement de procéder à cette affaire-là. À ce que désormais quelqu'un investisse bien, il faut qu'un compétent de chez nous soit le DG et que l'agent soit et choses.
D'accord, monsieur Bomba, vous avez été compris, largement même compris, mais toutefois, tel que je l'ai dit, vous allez rester avec nous quand, déjà à partir de midi, il y aura certainement des questions de la part de vos compatriotes qui veulent mieux savoir, enfin, veulent en savoir plus, et je sais quand même que vous serez à mesure alors de leur répondre à des différentes questions. Merci. Alors, chers confrères, nous revenons en plateau pour aborder nos différents sujets, bien sûr, de l'actualité. Alors, Cyril, c'est vrai que vous écrivez un article sur votre site en ligne, bien sûr. Je lis PDP. À quoi joue Lucien Azondani, Yewanu Kossi? C'est vrai, on voyait même d'ailleurs ce sujet, on a vu ce sujet sur la toile hier. D'aucuns donnaient également un autre titre où on parlait de à quoi jouent les Kabaras. On avait lu également un titre comme ça, mais finalement, vous êtes revenu sur le sujet et vous parlez de M. Azondani. Qu'est-ce qui se passe concrètement au PDP?
Oui, moi j'ai une habitude, je le dis souvent, dans l'assiette qu'on a une fois mangée, on ne crache pas dans cette assiette-là. Parce que ce qui se passe au niveau du parti politique PDP, dont le président national est M. Innocent Kagbara, normalement, ça ne devrait pas avoir lieu. C'est depuis 3 jours que nous sommes en train de lire sur les réseaux sociaux que le représentant de M. Innocent Kagbara, c'est-à-dire du PDP au niveau de la CENI, a été remplacé. Parce que vous savez, d'après le code électoral, dès que tu démissionnes, il faudrait que le parti envoie une autre personne pour te remplacer.
Entre-temps, est-ce que le sieur Azondani a démissionné?
J'arrive.
D'accord, allez-y.
Et voilà, dans la foulée, nous lisons encore toujours sur les réseaux sociaux un article dans lequel M. Azondani est en train d'accuser le président national d'avoir usurpé sa signature, que lui n'a jamais démissionné. Non. Aujourd'hui, nous détenons des documents sur lequel lui-même il a signé sa démission. On a même des procès-verbaux. Tout ça là, aujourd'hui nous avons ces documents là. Maintenant, je ne sais pas pourquoi c'est aujourd'hui lui se lève et il dit sur les réseaux sociaux, et certains confrères même l'ont écrit, que c'est le président national qui aurait usurpé de sa signature. C'est vraiment absurde. Vous n'êtes pas sans savoir. Moi, je le connais très bien, je l'appelle grand frère, mais aujourd'hui, mais moi, je lui ai dit au téléphone que vraiment, moi, je ne suis pas content de lui, parce que j'ai un grand respect pour sa personne. Mais si c'est sur les réseaux sociaux, nous allons apprendre aujourd'hui qu'il est en train d'accuser M. Innocent Kagbara, le président du PDP, d'avoir usurpé de faussaire. C'est comme ça, le président du PDP a été traité, il est accusé de faussaire. Ce n'est pas bien. D'autant plus que quelqu'un qui t'a aimé, quelqu'un qui t'a récupéré, entre guillemets, dans la boue, qui a travaillé avec toi, qui t'a même envoyé à la CENI en étant, son représentant, et aujourd'hui, tu l'accuses de faussaire, ce n'est pas bien. Or, au même moment, toi-même, tu as signé des documents de ta démission. La lettre même que tu as envoyée à la CENI, tu as ça. Moi, j'ai une copie de ce document-là. Il y a même, l'année passée même, il a eu même des problèmes, jusqu'à ce qu'il a été même convoqué devant le conseil de discipline de PDP. Parce que vous n'êtes pas savoir, il y avait eu même des affiches qui se sont circulées sur les réseaux sociaux, des affiches sur lesquelles M. Azondani était dans des habits à effigie d'un autre parti politique, appelant les populations à sortir massivement pour aller sur. Parce que vous ne pouvez pas être un représentant d'un autre parti. Et voilà, vous faites appel au nom d'un autre parti. Ça, c'est absurde, ce n'est pas bien. Donc, il a même été convoqué devant le conseil de discipline de PDP. Il a reconnu les faits. Il a même présenté ses excuses publiquement. Il y a même les témoins qui sont vivants. Les responsables de ce parti politique-là, qui ont même pris part à ce conseil de discipline-là, ils sont toujours là. Ce n'est pas aujourd'hui, ce monsieur va accuser le président du PDP de faussaire, ou au même moment, il a signé les documents. Moi, je dis, et je défie qui que ce soit, j'ai les documents aujourd'hui sur lesquels il a apposé cette signature.
Alors, Gavin, c'est vrai que moi, je ne voudrais pas rentrer dans le fond de ce sujet pour voir telle ou telle autre a raison, mais quand on voit, c'est surtout les partis politiques, bien sûr, de l'opposition, et qui affichent également ces problèmes sur la place publique, alors là, on doit s'inquiéter aussi.
Il y a péril à la demeure, parce que véritablement, ce qui se passe aujourd'hui au sein des partis politiques, c'est une question de manque de dignité et aussi de sérieux. Parce que j'ai l'impression que les gens aujourd'hui, ils courent derrière des postes et ils font tout ce qu'ils veulent, oubliant dignité, honneur. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement entre M. Azoudani et la famille Kagbara, parce que il me semble que M. Azoudani, selon ce que j'ai lu, il a été remplacé par un autre Kagbara. Dans un parti politique, vous faites des histoires de famille, c'est-à-dire, bon, mon petit frère, toi, viens rester ici, ainsi de suite. Vous savez, un parti politique, c'est régi par des tests. Et à un moment donné, il faut prendre toutes les dispositions et faire les choses dans les normes pour que la population sache que, bon, voilà ce que vous êtes en train de faire. Vous ne pouvez pas être dans un parti politique et être chef d'un parti politique et faire les choses en sourdine. Un parti, c'est l'émanation de la population. Donc, à un moment donné, quand vous prenez des décisions, il va falloir les mettre à disposition de la population. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que non, M. Azoudani a fauté, il a fait telle chose. Mais à quel moment vous avez informé la population ? À quel moment on a su que véritablement ce monsieur-là, il a fauté et que vous avez pris des dispositions disciplinaires contre celui-là? La CENI, c'est un poste stratégique. On ne peut pas se permettre de mettre n'importe qui là-bas. Donc, à un moment, dans le cas, vous mettez cet individu-là à la CENI et que le monsieur, il a fauté, vous l'avez interpellé au niveau du conseil disciplinaire, vous lui avez fait des remontrances et il a reconnu sa faute. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui demandez en même temps de démissionner. C'est-à-dire, vous le recalez. Et ce sera par rapport aux nouvelles preuves qu'il va vous faire, que vous pouvez le faire encore avancer. Vous ne pouvez pas garder une brebis galeuse dans une institution comme la CENI. Et un parti politique ne révoque pas son militant de la CENI. Il prête serment devant le Parlement. Ça veut dire qu'il est devenu un représentant de la nation. C'est pourquoi même au sein de la CENI, on interdit à ces membres-là de rendre compte à leur parti politique. Parce que là, ils représentent la nation. Ils ne travaillent plus pour le compte de leur parti politique. On avait vu le cas de M. Aoudi Boga ici. Il avait refusé de rejoindre son groupe familial le cas. Et la CENI n'a pas pu le faire démettre. Parce que là, il est employé de l'État et on le paie comme ça. Donc ici, qu'on me dit que... parce que là, on parle de faux usage de faux. Qu'on a falsifié sa signature. Si le sieur lui-même dit que lui n'a pas apposé sa signature sur ce document-là, je ne sais pas si notre justice a quand même cette capacité-là d'authentifier la signature. Mais s'il s'avérait que même avant ce problème-là, parce que je sais qu'au sein de nos partis politiques, il y a de ce genre de choses qui se font. Les gens même, ils prennent des engagements que, bon, sur mon salaire, chaque fin du mois, sur peut-être 1 300 000, je reverse les 300 000 aux partis politiques. Et on prend des dispositions pour dire que, bon, j'ai signé un tel pacte, en cas de faute et autres, bon, je démissionne. Il peut signer ce document-là avant de partir. Mais ça aussi, ce n'est pas requis en droit. Ça ne se fait pas. Pour un acte futur, vous ne pouvez pas faire signer quelqu'un pour cela aujourd'hui. Donc si M. Azoudani porte plainte aujourd'hui, que ce soit pour faux usage de faux, ou bien que ce soit par pression, pour qu'à ce moment-là, il puisse rejoindre la CENI, alors il aura raison. Donc à un moment donné, je pense que c'est le PDP qui est en train de se fourvoir. M. Kagbara, c'est un monsieur très intelligent, un grand intellectuel, je pense qu'il n'a pas besoin de tout ça. Il faut faire les choses dans les normes. Et surtout les histoires de famille, là. Oublions ça dans les partis politiques.
D'accord, monsieur Kofi. Oui, mais quand on parle d'un parti politique, c'est aussi la discipline.
Pascal, j'avais dit ici quelques semaines plus tôt, et je vais encore le répéter aujourd'hui, il est important que l'État fasse le ménage au sein de la classe politique. parce que nous avons tellement de désordre là-dedans. Nous avons des marchands politiques, nous avons des aventuriers de tout genre, nous avons des gens qui se disent nos représentants, parce que lorsque vous êtes membre d'un parti politique, vous appartenez au peuple. Vous avez le mandat du peuple, parce que il y a une partie de ce peuple-là qui aspire que vous soyez un jour au devant des affaires. Alors, vous ne pouvez pas vous comporter comme des gens qui n'ont de compte à rendre à personne. Ce n'est pas possible. Nous devons aujourd'hui nous dire la vérité. Ceux-là qui se disent... Nous avions quelques semaines plus tôt les histoires du net, le problème que nous avions eu au net.
Oui.
Nous avions eu aussi l'histoire de l'ANC avec le monsieur qui est devenu aujourd'hui sénateur.
Oui, Robert Olympio.
La pagaille doit s'arrêter. Mais si la pagaille doit s'arrêter, il faut que l'État... Nous avons vu ça au Bénin avec l'avenir au pouvoir de monsieur Talon. Il a fait le ménage au sein de la classe politique. Parce que ceux-là qui représentent nos partis politiques, n'importe lequel d'entre eux peut diriger le pays un jour. Mais si nous avons des comédiens, nous avons des gens qui ne sont pas disciplinés à la tête de nos partis, notre avenir est en danger.
D'accord. Fimé Tako, bonjour.
Bonjour Pascal Loussou, merci de m'avoir invité.
Oui, mais Fimé, c'est vrai que ce problème au sein alors du PDP, est-ce que ça ne devrait pas être réglé aussi à l'amiable pour qu'on ne l'étale pas sur la place publique?
Non, moi je voudrais dire deux choses. La première chose, moi ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est l'humain, ça affiche juste le caractère humain. L'homme par moment devient versatile face à certaines circonstances et à certains intérêts. Par exemple, ce qui se passe au Togo n'est pas quelque chose de nouveau. Vous rappelez ce qui s'est passé avec l'UFC et ce qui sont devenus aujourd'hui certains membres de l'ANC en 2009-2010 ou après 2010, lorsqu'ils étaient agis de signer cet accord RPT-UFC, il y avait des gens qui n'étaient pas pour la nouvelle démarche de Jiris Olympio. Et Jiris Olympio disait, si vous ne voulez pas être d'accord avec moi, vous démissionnez. Alors qu'il représentait l'UFC à l'Assemblée nationale. On avait sorti leur lettre. Ça veut dire ils avaient signé une lettre avant d'aller aux législatives. Les lettres étaient antidatées. Qui a fait sortir cette méthode? C'est le général de Gaulle. Quand il arrivait au pouvoir, tous les premiers ministres qu'il nommait, ils te nomment avec ta lettre de démission, mais antidatée. Le jour où ils sentent une petite pagaille avec toi, il sent que tu n'es plus avec lui, il te sort, ou tu regardes à la télévision que tu n'es plus Premier ministre. C'est-à-dire, il va sortir la lettre, puisque tu avais déjà signé la lettre, mais sauf la date. Mais le jour où il sent que Pascal Loussou n'est plus avec moi, tu regardes à la télévision que tu démissionnes, alors que tu n'as pas démissionné le jour-là. Le jour où tu rentres en fonction avec ta lettre de démission. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs États ou plusieurs sociétés emploient cette méthode. C'est ce que Jiris Olympio, l'UFC, avait fait aussi avec les membres, aujourd'hui quelques membres de l'ANC. Avant d'aller au législatif de 2007, les gens avaient signé leur propre lettre de démission. C'est-à-dire, si par exemple, il advenait qu'il y ait transhumance ou que tu ne te reconnaisses plus dans notre idéologie, on brandit ta lettre. C'est pour ça qu'on avait parlé des 9 députés exclus de l'UFC. C'était ça, au fait, le problème. Si par exemple, on parle aujourd'hui de démission au niveau du PDP, peut-être, on n'a pas encore toute la preuve, peut-être le patron du PDP aurait eu recours à cette méthode avant que le sieur Azordani n'aille à la CENI. Donc si c'est comme ça, donc lui-même, il a signé, on a sorti la lettre, on m'a dit, oui, tu avais signé. Tu as signé. Il suffit juste de mettre la date parce que c'est une lettre que tu avais signée. Donc, mets la date que tu n'es plus membre. Donc, à ce niveau, il n'y a rien d'illégalité.
Mais est-ce que cela, si cette méthode, ce n'est pas une escroquerie politique?
Non, c'est 30 secondes.
On laisse finir. Non, arrêtez. Vous parlez d'escroquerie politique. On copie tout de ceux-là qui ont fait la politique avant nous. Le général de Gaulle a opté pour cette méthode et ça intéresse aussi beaucoup de chefs d'État. Ça sécurise. C'est une question de stabilité. Parce qu'en politique, arrivé à un moment donné, on voit que dans les circonstances font que tu n'es plus trop d'accord avec ton patron. Regardez par exemple, quand des gens disent démission, qu'on n'est pas d'accord. Non. Moi, avant, bon, je raisonnais comme ça. Mais regardez par exemple, un Bernard Kouchner qui était un grand socialiste en France. Alors, à l'époque, quand Sarkozy arrivait au pouvoir en 2007, c'était un vrai choc entre la droite et la gauche. Le Ségolène Royal avait perdu. Et on ne voulait pas collaborer avec Sarkozy. Même Bernard Kouchner, une figure emblématique, a dit, moi, je vais travailler avec Nicolas Sarkozy parce que Sarkozy le trouve intelligent. Il dit, ok, tu rentres dans... Et au niveau du parti, des socialistes à l'époque, on dit, mais tu rentres là, tu ne rentres pas en tant que parti socialiste. Tu rentres de façon, la façon la plus personnelle. Est-ce que vous allez lui dire qu'il n'a pas le droit de le faire? Moi, je pense que c'est un caractère d'accord. humain. Mmh. Mais en politique, tout est versatile.
D'accord, ok. Oui, Gabriel.
Non, là, c'est une escroquerie, telle que tu l'as dit, c'est une escroquerie politique. Parce que, vous savez, ce n'est pas le parti politique qui révoque un fonctionnaire de l'État. Vous voyez? Ce n'est pas le parti politique. Donc, même si, d'aventure, le gars, il venait à démissionner, l'État va voir parmi les partis extra-parlementaires celui-là qu'il faut, ou bien peut-être à ce moment, ce parti-là n'est plus en pole position pour pouvoir aller à la CENI. Donc, on va choisir un autre parti politique et la personne ira prêter serment devant le Parlement. Ici, le sieur Razoudani représente quand même la nation. Il travaille dans une institution étatique. Donc, vous ne pouvez pas lui faire signer, entre-temps, une lettre qu'il envoie ou bien une lettre de démission parce que il dit non, au moment où je vais mal me comporter, je vais démissionner de la CENI. Non, il ne représentait plus le PDP à la CENI. Il représente l'État togolais. Non. Donc si il dit, si la lettre portait mention que si jamais je fautais, alors je démissionne du parti politique, alors là, ça pourrait se comprendre. Non. Mais démissionner de la CENI, c'est une escroquerie.
Non,
c'est une escroquerie politique. On ne ruse pas de la position de faiblesse d'une personne pour le contraindre à faire certaines choses. En ce moment-là, le sieur Azodani, même si tu étais à sa place, tu allais signer tout pour pouvoir rentrer à la CENI. Tu étais sous la contrainte. Tu ne pouvais pas refuser. Mais je sais, et je fais confiance à notre justice, que même si cette affaire-là était portée devant nos juges, on va débouter le PDP de M. Kabbara. Parce que ce qu'il avait fait, il avait usé de la pression et il avait joué sur la situation. À ce moment-là de M. Azodani, je ne dis pas que le sieur Azodani s'est bien comporté, mais on devait prendre les décisions en amont. Quand vous voyez cet individu-là venir, mais il faut tout simplement les capter.
Il n'est pas un individu quand même.
Oui, quand vous voyez ce monsieur là venir, voilà quoi.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faudrait quand même qu'on aille calmement pour que les gens, puisqu'il y a des gens qui nous suivent à la maison, il faudrait quand même qu'on aille calmement pour qu'ils puissent mieux nous suivre. Nous sommes rejoints par Thierry Afanoukou. Thierry, bonjour.
Bonjour Pascal.
Oui, Thierry, nous sommes en train de parler alors de ce problème qui se passe au sein alors du PDP avec déjà une démission de quelqu'un qui a été signé ou on ne sait pas concrètement exactement ce qui se passe. Et finalement, est-ce que ça ne porte pas vraiment de coup à ces partis politiques alors de l'opposition?
Non, pourquoi ça va porter de coup au PDP? Il y a d'autres cas qui se sont déroulés devant nous, ça n'a pas apporté de coup à ces partis-là. Je ne vois pas en quoi le cas de Roger Azondani va être un coup pour le PDP. Vous savez, c'est difficile de parler d'un confrère, mais ce qui se passe pour moi, ça ne devait même pas faire objet de débat. Parce que bien avant le PDP, le NET a procédé au changement de ses représentants, personne n'a crié au scandale. Dans ce pays, il y a une année, le parti au pouvoir uni a procédé au changement de ses représentants à la CENI. Personne n'a crié au scandale. Mais pourquoi pour le cas de Roger Azondani, ça pose problème? Alors, quand vous parlez, j'ai écouté mon frère et ami Jaro parler de la justice, il m'étonne parce que ceux ou celles qui ont validé le changement de Roger Azondani par un autre Kagbara sont des juges. Du moins, la majorité sont des magistrats. Vous n'allez pas me dire que ils se sont levés du jour au lendemain et procédé à ce remplacement-là. Parce que il faut se demander depuis quand la lettre de remplacement de Roger Azondani a été envoyée à la Cour constitutionnelle. Et pourquoi il y a eu assez de temps avant que on ne procède finalement à ce changement-là cette semaine. Certainement, il y a un travail qui a été fait là-dessus. Maintenant, Roger Azondiani, c'est un confrère, c'est un grand frère, on ne va pas l'exposer ici, mais si le parti a décidé de procéder à son remplacement, certainement le monsieur a posé des actes qui, à un moment donné, indispose le parti. C'est vous-même qui l'avez dit qu'au niveau de la CENI, il faut une intégrité, il faut de la personnalité. N'importe qui ne devrait siéger à la Commission électorale nationale indépendante. Parce que là, vous êtes appelé à faire un travail sérieux. Même si il y a des réserves sur le travail de la CENI, mais il faut dire que le travail qui se fait là-bas, c'est du lourd. Donc, prochainement, peut-être qu'il faut bien voir les choses, il faut bien regarder les choses, faire une enquête sur les personnes qui sont envoyées au niveau de l'Assemblée nationale pour être membre de la CENI. Maintenant, merci. On aura le Sénat et l'Assemblée nationale. Je ne sais pas comment ça va se procéder. D'accord. Pour les membres de la CENI, mais prochainement, je crois que il faut bien regarder les choses pour ne pas envoyer n'importe qui siéger dans ces institutions. Okay, et puis, peut-être, c'est le lieu de dire, peut-être au Niger, on a dissous tous les partis politiques. Peut-être qu'il faut faire le ménage chez nous aussi. Comme vous le dites, il y a trop de désordre dans les partis politiques.
Merci beaucoup Thierry. Alors oui, vous avez bien fait la transition quand même, puisque tout, très prochainement, nous aurons le Sénat et les élections sénatoriales. C'est le 15 février dernier, on a eu quand même, on connaît désormais les résultats. Les résultats font état de ce qu'il y a 34 sièges hein, pour UNI et 7 pour des partis politiques de l'opposition et aussi des indépendants. Alors, Cyril, comment vous appréciez d'abord ces résultats donnés par la résultats provisoires, bien sûr, il faut le préciser, donnés par la CENI.
Bon, moi, je crois que ça n'étonne personne, parce que aujourd'hui, quand vous prenez l'Assemblée nationale, c'est UNI. Quand vous prenez aujourd'hui le Sénat, qui est en gestation, si je peux le dire comme ça, c'est juste UNI avec 34 voix, donc quasiment
34
sièges, donc quasiment et avec les 20 que le président de la République même va encore nommer, ça sera toujours, hein, je crois qu'au moins 80-90% seront ici de son parti. Maintenant, connaissant un peu la générosité du président de la République, il peut encore donner d'autres voix, peut-être à certains opposants, si vous le permettez, comme ça. Maintenant, le problème, le Sénat est en train d'être installé. Le poste du président de la République ne sera plus. Maintenant, comment...
Il y aura président, justement, de la République, mais...
Il y a son patron qui a le conseil.
Le président du conseil des ministres.
Maintenant, comment ça sera géré? Je crois que c'est la grande interrogation pour nous tous. Parce que, actuellement, même là où nous-mêmes nous sommes, on ne comprend pas comment le Sénat va collaborer avec l'Assemblée nationale, comment ça va fonctionner.
Non, attends, donc, Cyril, ce n'est pas nous qui inventons le Sénat, puisque le Sénat existe sous d'autres cieux. Et le fonctionnement du Sénat est tout à fait, on le sait très bien. On sait le rôle que joue le Sénat et au sein alors du Parlement. C'est bien ça. Alors oui, mais Sokovi, vous, quelle est l'analyse que vous faites alors de ces résultats, puisqu'on en avait tellement parlé ici au Club de la Presse, par rapport même à la configuration, on connaît même d'ailleurs le corps électoral, mais est-ce qu'il n'y avait pas de surprise dans ces résultats?
Pascal, lorsque vous participez à un examen et que vous échouez, et que vous n'avez pas eu le temps de vous asseoir, de faire un bilan, de vous demander pourquoi vous avez échoué, la prochaine fois que vous allez participer, votre score sera minable. Plus minable que la première fois. Je pense que ce résultat que nous avons là, c'est la confirmation de la mort de l'opposition togolaise. Je vais être un peu cru, mais je suis sincère, oui.
Quand vous dites mort de l'opposition togolaise...
Oui, la mort de l'opposition togolaise. Parce que, comment voulez-vous que dans un pays comme le nôtre, nous ayons une Assemblée nationale largement composée par des membres du parti au pouvoir et un Sénat qui est... Nous avons déjà 34 sièges et nous attendons la nomination que fera
le président de la République,
le chef de l'État.
Les 20, bien
et
sûr.
Soyons sûrs qu'au moins 15 de ces sièges-là seront attribués à UNIR. Alors, je me demande ce que l'opposition togolaise peut se dire aujourd'hui, quelle position de force elle a dans la nouvelle configuration que nous avons à partir de maintenant. Nous avons une nouvelle constitution, nous avons un Sénat, nous aurons bientôt un président du Conseil, un président de la République. Quel poids politique aura l'opposition togolaise avec ces résultats que nous avons? C'est la mort politique pour l'opposition togolaise. Et c'est le moment pour cette opposition-là de se refonder. Et sans ça, je pense que nous serons là pour longtemps.
D'accord, c'est votre avis. Oui, d'abord, vous, quelle analyse vous faites alors de ces résultats?
Moi, ça m'a fait rire. ça m'a fait rire parce que les gens n'ont pas été dans une certaine logique, parce qu'au prime abord, ils n'avaient pas assez de conseillers régionaux et municipaux pour participer à ces élections. Mais ils y sont allés quand même, ça veut dire qu'ils ont fait des négociations de couloir, ils avaient rasé les murs pour pouvoir savoir que bon, ils seront élus.
Mais est-ce que ça aussi, c'est pas de la politique?
Non, c'est pas de la politique. Ça, c'est de la pagaille, ça, c'est pas de la politique. Quand on veut faire de la politique, on fait de la politique pour convaincre la population à voter pour soi. Pas pour quémander à son adversaire de me donner un poste. Ben, ça n'a aucun sens d'aller vers UNI, s'il vous plaît, donnez-moi un poste de sénateur, voilà, donnez-moi un poste de sénateur, au point où certains se sont dit, moi je suis sûr que je serai élu. Et évidemment, ils ont été élus. Imaginez que, bon, voilà, quoi, un député ou bien un représentant des deux bisons, voilà, qui a été élu à 70 conseillers régionaux et municipaux, score même que n'a pas eu hein, le plus grand représentant UNI. Mais c'est pour énerver juste son parti politique de où il a quitté. Juste ça. Moi, vous voyez, je ne conçois pas la politique.
Mais est-ce que là aussi on peut comprendre que c'est un coup politique?
Non, ça, ce n'est pas un coup politique. Vous savez, nous sommes dans un pays et nous voulons tous l'avancement de ce pays-là. Nous voulons que le Togo se développe. On n'a pas besoin de ces bisbilles-là, de ce genre de choses, pour se dire que, bon, voilà, quoi, il y a certaines personnes qui sont à l'Assemblée, ou bien au Parlement, ou bien au Sénat, qui ont d'autres visions, ou bien d'autres manières de voir la politique. Donc, à un moment donné, moi, je me dis, j'aurais voulu que UNI rafle tout. Après, on va les juger dans les urnes.
D'accord.
Mais cette façon de faire, où on donne jusqu'à 7 sénateurs à des gens, Togo autrement de M. Fulbert Atisso, qui a gagné dans le Yoto. Moi, j'étais étonné. Togo autrement, quelle implantation? Il a quel conseiller régional et municipal pour se faire élire? Il n'était même plus sur la scène politique. Quelqu'un qui était très véhément avec ce régime-là, avec la DMK. Aujourd'hui, il se retrouve de l'autre côté et puis il est devenu sénateur tout d'un coup comme ça.
Ah, mais Togo autrement se trouve.
Je vous jure, on a suivi un débat la fois dernière sur une chaîne internationale. Beaucoup de Togolais ne savaient même pas qu'il y avait eu une élection. Quel genre de régime parlementaire on veut faire et puis on amène tout le monde? Nous, on veut voir un débat. On veut un parlement composé de gens assez érudits qui sont convaincus de leur position politique, pas des transhumants. Des gens, pratiquement, eux, 61 là. Ils sont nommés par UNIR. Hein. Ceux-là qui vont là-bas, ils ne pourront pas contredire. Ils sont tous nommés par UNIR parce que ce sont les conseillers régionaux qui les ont élus. Ce sera le président qui va les nommer. On n'aura pas de débat.
Justement, Gabin, c'est votre avis. Oui, Fibel, est-ce que vous avez été surpris?
Non, je suis pas supprimé, je vais un peu aborder dans le... Non, pas dans le sens contraire de Gabin Adjaro, il m'a tellement fait rire que... au fait, depuis un moment, j'ai commencé par mettre la différence, pas comprendre que l'amour et la politique, c'est la même chose. En politique, il y a les plus grands sacrifices, il y a les plus grandes alliances qu'on a tuées. En amour aussi, c'est la même chose. Si vous voulez comprendre l'amour, allez chez Dieu, vous allez comprendre ce qu'on appelle l'amour. Au nom de l'amour, tu peux sacrifier jusqu'à ton fils. C'est la même chose en politique aussi. Si vous voulez comprendre un peu la politique, c'est les plus grands sacrifices, c'est les plus grandes alliances contre la nature. Moi, je pense que c'est ce que UNIR fait. UNIR ne fait rien d'extraordinaire. Où la politique se passe au Togo, c'est rien d'extraordinaire. C'est comme ça la politique. Arrivé à un moment donné, quand tu remarques qu'il faut qu'il y ait une négociation quelque part, tu le fais. On sait que, bon, pendant ces élections, il y aurait certainement eu des alliances. Il y aurait certainement eu des alliances de couloirs, des discussions de couloirs. Ça, c'est rien de mauvais. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Et moi, c'est ce que moi, j'ai toujours souhaité. Et je souhaite même que cela continue. Pour qu'à l'avenir, les 20 sénateurs que nous aurons, que ça ne soit pas 20. Que ça ne soit pas tous 20 de unir. Et puis, quand on parle de nomination de sénateurs, on l'a dit tout à l'heure, la Constitution de 92 même avait parlé de nomination d'un tiers. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de problème. Il faut qu'il y ait d'autres colorations ou il faut qu'il y ait d'autres couleurs politiques à côté de unir pour qu'on puisse avoir une certaine diversité d'opinion à l'Assemblée nationale. En fait, ça, c'est pas trop ce qui m'intéresse. La marche de la 5e République, on la voit déjà. Ce qui va être intéressant, c'est que d'ici avril ou d'ici fin mars, on arrive à avoir le président du conseil. Parce que c'est le président, parce qu'en avril, c'est en avril qu'on aura le Sénat au complet. Parce qu'en avril, le Sénat va faire sa première sortie. L'article 12, alinéa 2, dit simplement que la première session ordinaire du Sénat se réunira le premier mardi du mois d'avril. Alors, avant cela, il va falloir que le président du Conseil, qu'on le connaisse, bon, on le connaît déjà officieusement, mais officiellement, on ne le connaît pas encore, il faut que le président du Conseil, lui, procède à cette nomination de 20 sénateurs. D'accord. Et après cela, ça va soit parler de président de la République. C'est après cela qu'on aura le Sénat et l'Assemblée nationale vont se réunir en congrès pour élire le prochain président de la République. Et à ce niveau aussi, moi, je pense qu'il y aura encore négociation. Parce que moi, je ne pense pas que peut-être Unir va encore nous présenter un gars purement Unir, qu'on le vote à l'Assemblée nationale, pour qu'à l'Assemblée nationale, ou à la tête du pays, c'est-à-dire le chef de l'État soit Unir, le président du Conseil soit Unis, et qu'à l'Assemblée nationale, qu'on est unis majoritairement, et qu'au Sénat, qu'on est encore unis majoritairement.
Chef de l'État sans pouvoir.
À l'Assemblée nationale, actuellement. Oui, mais Thierry, oui. Alors, vous, à votre niveau, c'est vrai, entre-temps, il y a Kofi qui posait une question concernant le fait que, déjà, après ce sénatoriel, ou après la mise en place même d'ailleurs du Sénat ou des autres institutions, quel sera le rôle exact même d'ailleurs de l'opposition traditionnelle? Est-ce que vous en trouveriez déjà ce rôle?
Oui, l'opposition va toujours jouer son rôle d'opposition. Il n'y a rien d'autre à faire. Sauf que ça va lui être encore plus difficile parce que l'opposition togolaise a perdu beaucoup sur le terrain. Il faut retravailler et intéresser les Togolais par rapport à leur discours. Parce que cette opposition-là ambitionne de prendre le pouvoir, sauf que dans la situation actuelle, pour prendre le pouvoir, il faut avoir la majorité à l'Assemblée et même, pourquoi pas, au Sénat. Donc, c'est beaucoup de travail, non seulement au Sénat et à l'Assemblée, mais aussi au niveau communal. Parce que c'est conseillers municipaux et régionaux qui vont donc, l'opposition doit réinventer la roue. Sinon, ça lui serait très, très, très difficile les jours et les mois à venir. D'accord. D'exister.
Ok. Alors, rapidement, je voudrais qu'on dise un mot sur la RDC, puisque j'évoquais même cela dans mes mots introductifs, mais c'est vrai qu'on n'a plus assez de temps. Okay. Mais quand on suit l'actualité en RDC avec le M23, les rebelles de M23 qui prennent de plus en plus à l'heure de terrain, tandis que l'Union africaine est là, Gabin, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces rebelles ont d'autres forces ou un autre pouvoir, plus que cette force alors de l'Union africaine?
Ces rebelles-là sont en train juste de profiter de la faiblesse des FARDC. C'est aussi simple que ça. Ils ne rencontrent pas de résistance et ils ont vu leur objectif grandir. Kanel Angal avait dit que bon, lui, son objectif actuellement, c'est de prendre le pouvoir de Kinshasa. Donc, ils sont dans cette lancée-là et pratiquement toutes les villes où ils vont, ils ne rencontrent pas de résistance. Ils arrivent à prendre la ville facilement. Et bon, bah, parfois même les FARDC eux-mêmes se désarment et puis se rendent à ces rebelles-là. L'Union africaine ne peut rien faire. Vous savez, c'est une guerre d'intérêt. Sassou Nguesso l'a dit lors du dernier sommet que bon, ce n'est pas toujours les prises d'opposition radicales qui vont changer la donne. Et l'Union africaine n'est même pas arrivée à condamner ouvertement le Rwanda. Ça veut dire que Paul Kagame, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup d'années pour construire quand même sa diplomatie. Et il a beaucoup de relations. Et aujourd'hui, Paul Kagame, c'est quand même l'œil hein, des Occidentaux. C'est celui-là qui a quand même le poids là, qui il a le soutien des Occidentaux. Donc du coup, la plupart de ces chefs d'État là qui se réunissent au sein de l'Union africaine, qui est d'ailleurs financé par les Occidentaux et qui, déjà, le siège même s'est construit par les Chinois, ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas véritablement indépendants. Et les chefs d'État qui vont là-bas, ils sont soutenus de l'extérieur par les Occidentaux. Or, les Occidentaux, eux, ils ont leur intérêt auprès de Paul Kagame qui pille les ressources là-bas pour leur vendre ça à vil prix.
Okay,
donc, à un moment donné, on peut rien faire.
Merci beaucoup. Oui, mais Firmin, est-ce que vous arrivez à comprendre que l'Union africaine qui a tenu son 38e sommet, déjà dans le week-end dernier, et c'était le dimanche que cela a pris fin, mais finalement, l'Union africaine ne s'est même pas prononcée sur cette question.
Moi, j'arrive à très bien comprendre. Je comprends très bien, parce que l'Union africaine... En fait,
qu'est-ce que vous comprenez?
Ce que je comprends, c'est que l'Union africaine n'existe pas. Vous savez, chaque année, vous savez, il faut chercher le budget de l'Union africaine. Le budget de l'Union africaine, en réalité, ne sert qu'à payer les fonctionnaires de l'Union. Le budget de l'Union africaine ne sert qu'à payer les fonctionnaires de l'Union. Alors, pour dérouler tous les projets, durant toute l'année, il faut que la Chine donne de l'argent. Il faut que les États-Unis donnent de l'argent. Il faut que l'Allemagne, la France, l'Union européenne donnent de l'argent. Alors, dans ce cas-là, est-ce que l'Union africaine existe? Elle n'existe pas. Donc, la deuxième chose que je voudrais faire observer, on l'a toujours dit ici, pour le moment, sur le plan international, l'Afrique n'existe pas. On n'est pas dans l'histoire. L'Afrique n'existe pas suffisamment dans l'histoire. Ceux qui dirigent ce monde, ce sont eux qui manipulent l'Afrique. Donc, et la troisième chose, vous savez, dans ce monde d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un coup d'État si vous n'avez aucune puissance derrière. Même si vous n'avez pas la puissance derrière, avant de faire le coup d'État, juste après, vous devez aller chercher la puissance. C'est ce que les Maliens et les Tchani ont fait. Maintenant, si vous voulez avoir une rébellion, vous devez avoir une puissance derrière. Si vous n'avez pas la puissance avant de créer la rébellion, juste après, vous devez aller chercher la puissance. C'est ce qui est en train de se passer au niveau de la RDC.
D'accord. Merci beaucoup, chers confrères. Nous allons donner la parole maintenant à nos auditeurs qui nous ont suivis avec grand intérêt. On va leur donner la parole de se prononcer aussi sur l'actualité telle que nous l'avons débattue ici au Club de la Presse. C'est sur nos deux numéros 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Ils peuvent également réagir sur notre numéro WhatsApp 90, 45, 78, 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô. Allô, bonjour.
Allô, radio.
Comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom c'est?
Monsieur Roubaix dans le petit quartier.
Monsieur. Allô. Allô.
J'ai des questions à vous poser là. La première question, je voudrais voir si parmi les gens de l'opposition qui ont été nommés à la Sénat, ou bien qui ont été reçus à la Sénat, est-ce que l'Assemblée aura le droit de nommer un premier ministre parmi eux?
Mais décidément, on a du mal à vous écouter. Oui, on a du mal.
Les sénateurs ont des citoyens. C'est la deux questions que j'ai pour vous.
Décidément, je n'ai pas trop cerné les deux questions parce que nous avons du mal à vous écouter. 90, 86, 35, 35, autre éditeur en ligne. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez, monsieur Johannes?
Ça va très bien.
D'accord.
Bonjour à vous sur le plateau.
Oui, bonjour.
Je ne sais pas en quoi on peut dire que ces élections consacrent la mort de l'opposition. Je ne sais pas comment on peut oser parler de la mort de l'opposition dans un pays où vous vous réunissez en cercle dans une maison, vous voyez des gens débarquer pour vous empêcher de vous réunir. Vous réunissez en 5 à 10 dans une maison, on débarque pour vous disperser. Et on vient aisément pour dire que l'opposition togolaise est morte. Ou plutôt dire que nous sommes dans une dictature. Là, on saurait que c'est une analyse objective. Moi, je l'ai toujours dit à tous ceux qui parlent de stratégie, de l'opposition, de changement de stratégie, changement de paradigme. Je ne sais pas dans quel pays les opposants sont des anges avant de venir, d'arriver au pouvoir. Je ne sais pas dans quel pays les opposants sont des saints avant de pouvoir convaincre la population. On prendrait n'importe quel homme puissant de ce pays qui est arrivé au pouvoir, Barack Obama, Emmanuel Macron, dont on a suivi les parcours, qui ont émerveillé beaucoup de personnes. Vous prenez ces personnes-là, vous les amenez au Togo, je vous dis que ces personnes ne goûteront jamais au goût du pouvoir, parce que nous sommes au Togo. Et pour qu'une analyse objective puisse partir de là,
d'accord.
Et non se cantonner à dire que l'opposition togolaise manque de trace.
Ok, merci beaucoup, Johannes, pour votre intervention. Salutations cordiales à vous tous, journalistes. Kabara Innocent a beaucoup fait arroser à Zondani, véritable frais qu'on ne peut dire sur les médias, mais il y a beaucoup de membres dans le parti PDP plus engagés que son petit frère. Ce problème est un problème d'argent. Togolais, soyons vraiment sérieux avec nous-mêmes et avec nos frères. C'est docteur Cédric Bignon Kofi qui nous écrit. Allô.
Pascal, bonjour.
Bonjour Basile, s'il vous plaît, vous pouvez diminuer le
volume. Non, je suis très content. Je pense que ça va. Hein.
Oui, justement, allez-y maintenant.
On salue vos confrères en studio. Bon, pour finir, je sais que lui vit en France. Quand il y a l'émission, il débarque au Togo, il part en France. Parce que tout ce qu'il va dire, ça se repose sur De Gaulle et Contior. Bon, maintenant pour les deux autres choses là, ils vivent ici ou pas, je ne veux pas paraphraser Johannes. Comment on peut accuser l'opposition dans ce pays? Vous ne pouvez même pas être à deux pour parler entre vous. Non, soyons sérieux quand même. J'ai utilisé le mot contention hier. Quelqu'un de vos confrères venu de nulle part comme ça, il dit que moi j'ai entendu le mot contention quelque part, de manière alambiquée, quand vous répondez aux questions d'un journaliste, qu'est-ce qu'on va dire? Ce sont des contentions. Il a beau être sociologue de quoi que ce soit là, ça m'énerve que c'est avec lui qu'on se connaît bien, il a parlé ça hier, moi je ne veux pas ça.
Oui, mais Basile, nous avons toujours un petit souci avec vous. C'est que nous parlons des sujets et l'essentiel, c'est de parler des sujets débattus.
Mais je vous ai dit que le projet est perdu. Le projet, c'est fini.
Oui, faites des analyses.
Mais c'est pas dit que pour les autres, je peux me poser des questions.
D'accord, merci.
Merci beaucoup,
Basile. Merci. L'essentiel, c'est de se prononcer sur des sujets discutés ici au Club de la Presse. Nous avons besoin de votre avis aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Allô, bonjour.
Allô?
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 Bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Bien, c'est M. Comblan du lycée.
Ah, M. Comblan du lycée.
Oui, j'espère que vous allez bien. Longtemps. J'espère que vous vous portez tous bien.
Effectivement, nous allons bien par la grâce de Dieu.
Merci. Aujourd'hui, ce que j'ai à dire, c'est qu'au Togo, tous ceux qui ont faim là, tous ceux qui n'ont pas l'électricité dans leur maison, tous ceux qui n'ont pas de l'eau potable à satiété, ce sont des opposants. Ce sont les opposants du régime. Et puis, ce que je voudrais ajouter, comment est-ce qu'on peut dire que nous sommes dans la 5e République? Est-ce que révision et changement, c'est la même chose? Expliquez-moi ça. Nos professeurs, il y a les grands professeurs qui disent que c'est la même chose. Hein? La presse qui est le quatrième pouvoir là, ils disent que c'est bien.
Ah bon?
On ne comprend plus rien dans ce pays.
Monsieur Comblan, merci.
Le changement, on dit, ceux qui sont, nous représentent comme les députés, ils peuvent faire une révision de la Constitution. Maintenant, on dit que la Constitution a changé. Et puis, la presse dit que c'est une bonne chose.
Mais monsieur Comblan.
Hein, on ne comprend pas.
Allô, monsieur Comblan.
Hein, le quatrième pouvoir.
Mais monsieur Comblan, alors merci beaucoup. Là. Peut-être que il ne nous suit pas. Et 90, 86, 35, 35. Allô.
Bonjour, Pascal.
Bonjour, Patrick. Comment vous allez?
Ça va bien, par sa grâce et vous?
Ça va aussi par la grâce de Dieu.
Dieu salue tout le monde. Pascal.
Oui, Patrick.
On se demande à quoi dans ce pays. Ces institutions-là que nous voulons bâtir avec tout ce qui se passe. Regardez le cas de la CENI. Hier, c'était à plusieurs. Jusqu'à quand? Mais, si à un moment donné, et personne ne dit rien, j'aimerais poser une petite question. Avec tout ce que nous voyons, ou bien ce qui se passe présentement au niveau de la CENI, personne ne peut taper du poing sur la table pour dire que ça suffit. Personne ne peut réagir pour les élections sénatoriales. Si la Cour confirmait tout et que le président nommait les 20, est-ce que c'est ça qui fera que nous allons acheter le bol de maïs à 300, le sac du riz va redevenir à 10, à 10 000 ou à 7 000, si c'est ça, quelqu'un vient de le dire, les opposants, là, c'est ce qu'on fait, il n'y a pas d'opposition autour ici, il n'y a pas d'opposition, c'est la vie chère, c'est l'opposition, c'est la vie chère.
Bon, d'accord, merci beaucoup Patrick. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Parce que je reviens, ça ne peut pas rester comme ça. Quand vous me dites que je n'aborde pas les sujets du tout, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous me comprenez?
Basile?
Oui, je ne suis pas d'accord. Oui, quelqu'un a dit que l'opposition, ses résultats, ça consacre la fin de l'opposition au Togo. Mais. C'est là que je vous demande qu'un individu, mais quelle opposition peut faire si on ne lui permet rien du tout? Pourquoi vous allez me dire que je n'aborde pas les sujets du coup? Ça, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez me dire de ne plus intervenir, je serai parfaitement d'accord avec vous.
Non, Basile, c'est votre droit d'intervenir, il n'y a pas de souci. Mais l'essentiel, c'est que quand vous suivez les autres auditeurs intervenir, vous allez voir quand même qu'ils s'intéressent au sujet débattu. Vous
allez écouter les uns les autres. Basile n'est pas prêt au sujet.
Mais Basile, je ne suis pas le seul à vous faire vraiment cette remarque. Parce que je vous suis également sur d'autres médias. Je vous dis la vérité. Et les mêmes reproches vous sont faits. Merci. Merci Basile. Merci 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, chef.
Votre nom c'est?
C'est Sylvain.
Ah, Sylvain.
Oui, je salue les contre-assistants au studio.
Merci beaucoup.
Et j'aimerais savoir si les invités de nos banques sont là.
Oui, oui, ils sont toujours là.
D'accord. Et moi, je voudrais savoir pourquoi ils ont mis trop de temps. Ils parlaient de 2018. La crise a commencé depuis 2018. Jusqu'à ce jour, 7 ans. C'est pas possible. On dit, bon, il vient de le dire, l'argent n'aime pas le bruit. Mais il faut que cet argent-là attende du bruit pour se calmer. Attends jusqu'à 7 ans pour une crise de cette ampleur-là, c'est pas du tout bien. Et tout ce qu'il vient de dire, de nous raconter au studio-là, si ça se verrait vrai, vérifié, c'est toute une mafia organisée. Moi, laquelle je pense, c'est ma première banque, ma première ouverture, c'était à la Caisse d'Épargne. Et patati patata, je ne sais pas, ça devient une banque populaire, tout ça là, moi je ne comprends plus rien quoi. Est-ce que c'est privatisé? C'est une privatisation aussi à ce niveau. Ils ont mis trop de temps pour réagir.
D'accord.
C'est plutôt moi, je voudrais leur dire.
D'accord. Merci beaucoup, Sylvain, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM. Un député nous a confirmé qu'ils sont des buveurs de lait. Et voilà, ils ont encore nommé des nouveaux buveurs de lait. Nous, Togolais, on les regarde seulement pour la RDC. Et je vois que Tshisekedi est complice alors de cette guerre. Merci, c'est Kofi de Zangera. Je pense que Sylvain, c'est notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Bien sûr, nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table et mettre fin à l'émission. Mais je lis rapidement aussi cette intervention de Maglibé qui nous suit depuis la Belgique. Et Maglibé qui écrit « Bonjour Pascal, bonjour aux camarades délégués, je partage votre indignation et la grève reste notre moyen suprême pour être entendu et écoute. N'hésitez pas non plus alors à bloquer les accès aux agences et bureaux. Est-ce que vous avez vu venir alors ces licenciements, s'il vous plaît? Avez-vous des conseils d'entreprise CE réguliers? Avez-vous accès aux informations financières trimestrielles comme la loi nous l'autorise? Avez-vous un CPPT, alors Comité pour la prévention et la protection au travail. Bref, il faut une assise nationale syndicale pour une refondation totale des organismes afin de peser dans les négociations. Alors, Monsieur Bombama, et nous allons rester avec vous pour répondre à la question alors de Sylvain. Sylvain qui dit, mais comment se fait-il que vous avez laissé le temps, puisque vous avez parlé d'une crise alors qui est là depuis 2018, vous avez laissé tellement de temps avant de réagir.
Je vous remercie, Pascal. Je remercie aussi l'auditeur qui a eu la pertinence de nous faire cas de ce problème. En fait, nous ne sommes pas restés sans acte. Nous avons essayé d'aller mollo-mollo avec notre employeur, de discuter afin que ça ne frappe pas la population. Aujourd'hui, nous avons cru bien faire, mais nous pensons que nous avons eu tort quelque part dans la mesure. C'est qu'on s'était levé plus tôt, comme on le faisait aujourd'hui. Je crois qu'il n'y aura pas ce problème. Mais c'est que, comme tout à l'heure, je le disais, que l'agent n'aime pas le bruit, on ne va pas faire à ce que la banque perde. Et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, que c'est ce que nos frères, l'arrière, c'est-à-dire les bouches qui sont derrière aussi, ils mangent. Nous avons allé sur les négociations pour que ça puisse marcher. Mais c'est l'employeur qui a été de mauvaise foi et que nous sommes arrivés à ce niveau.
Mais pour la question alors de Maglibé, qui nous suit depuis la Belgique, et il demande, est-ce que vous avez vu alors venir ces licenciements? Je pense que au cours même d'ailleurs de cette émission, vous avez expliqué beaucoup de choses qui ont démontré que oui, ces licenciements, vous les avez vus venir.
Oui, et on peut dire oui ou non parce que il n'avait pas évoqué plus tôt. On était sur la gestion de la société, c'est-à-dire les malversations qui se font. C'est sur ça on a tiré. Même il y a un délégué du personnel, et M. Douty, le très courageux Douty, qui a interpellé le président du conseil d'administration dès son passage. Il a tiré son attention là-dessus. De ce qui va se passer aujourd'hui, de là où on va y arriver aujourd'hui. Il avait attiré son attention, mais ils n'ont pas tenu compte. Et voilà que nous y sommes. Et c'est ce qu'ils nous présentent aujourd'hui.
D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez un mot de la fin et comme message, qu'est-ce que vous direz?
Oui, je dirais aux auditeurs et aux auditrices, merci de nous avoir écoutés. Nous voulons tenter d'élucider en quelque sorte le problème qui se passe à Sunu Bank. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'on est en train de leur faire du mal. Au contraire, nous sommes en train de protéger leur argent. Il ne faut pas que demain, tout à l'heure, quelqu'un a dit ici que c'est de là-bas qu'on prenait l'argent pour lui payer les frais d'études. Oui, il ne faut pas que demain cette banque disparaisse. Nous devons encourager nos frères et sœurs qui sont en train de venir de trouver des emplois demain, mais des emplois stables, sûrs. C'est pour ça que nous sommes en train de faire ce lutte-là. Il ne faut pas qu'ils nous laissent tomber. Et j'interpelle aussi les autorités à ouvrir les yeux. Tout à l'heure, je l'ai dit, vous allez dans les autres pays, le Ghana, le Burkina, le Mali, aucun étranger n'est DG dans ce pays. Tu vas, tu es adjoint. Tu peux envoyer des milliards, tu es adjoint. C'est le national qui est le DG. Je voulais attirer l'attention des autorités.
D'accord.
De penser à ça.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bombama. Et oui, Gabin, nous sommes à la fin de cette émission. 30 secondes pour votre réaction.
Oui, premièrement, j'aimerais te dire merci hein, de m'avoir invité. Et ensuite, je vais supplier les autorités, les premières autorités du pays à plancher véritablement sur cette affaire de Sunu Bank. On n'aimerait plus hein, voir des parents sur le carreau. Ça ne fait véritablement pas honneur à notre pays. Après la décadence de plusieurs banques et la privatisation d'autres, on n'aimerait plus voir un autre secteur financier très important de notre pays à la ruine. Donc, véritablement, que l'État y planche dessus et que nos parents gardent leur boulot et qu'ils puissent continuer par subvenir aux besoins des familles.
D'accord. Firmin, 30 secondes.
30 secondes, la première chose que j'ai dit deux choses. La première chose que j'ai à dire, c'est par rapport à Sunu Bank, je supplierai en toute humilité ceux-là qui interviennent sur les médias au niveau du syndicat de faire moins de communication et de faire plus de couloirs. Moins de communication. Puisqu'ils ont dit que la gens n'aime pas le bruit, qu'ils fassent moins de communication et qu'ils multiplient plutôt le couloir. La deuxième chose, c'est cette question que je me pose depuis un moment. On dit on doit avoir des institutions fortes et non des hommes forts. Au Togo, est-ce qu'on a des institutions fortes? Au Togo, est-ce qu'on a des hommes forts? Au Burkina Faso, est-ce qu'on a des hommes forts ou des institutions fortes? Moi, je me pose des questions. Et je commence par réfléchir par rapport au général Yadema. Il a dirigé le pays pendant 38 ans. Est-ce qu'on avait des institutions fortes ou on avait des hommes forts? Moi, je pense que la question sur laquelle on doit beaucoup plus plancher, c'est le fait de construire, d'avoir des hommes forts pour construire des institutions fortes.
D'accord. Thierry Afanoukoui, 30 secondes.
Oui, des fois, il faudra que les auditeurs nous suivent bien et qu'ils soient patients par rapport à ce que nous disons. Je ne sais pas si c'est de moi il parle ou quoi. Quand je parlais de l'opposition, personne n'a dit que l'opposition togolaise est morte. Mais nous disons, par rapport au changement qui intervient en lien avec la nouvelle constitution, il faudrait que notre opposition s'organise davantage pour gagner leur pari ou leur engagement qui est de prendre le pouvoir et de le gouverner. Donc il faudrait qu'elle puisse travailler davantage. D'accord. Pour avoir plus de suffrages d'accord, aux okay. différentes
merci,
élections.
Merci beaucoup Thierry Afanoukoui. Oui, Cyril.
Oui, moi je crois que je vais prendre la même voie que mon confrère Adjaho qui a fêté même son anniversaire l'autre fois. Voilà, donc je voulais dire que il faudrait que l'État vraiment se saisisse de cette affaire de Sunu Bank parce que ce sont des familles qui sont derrière le licenciement.
Okay.
Et pourquoi pas ne pas même auditer Sunu Bank parce qu'on a l'impression qu'il y a un grand réseau de mafieux qu'on doit vraiment démanteler. Parce que nous, moi, j'aurais même appris qu'il y a un duo sénégalo-béninois même. Qui sont en train d'organiser un véritable mafia.
D'accord, ok, merci. Oui, oui, monsieur Kofi, rapidement, 30 secondes.
Pascal, c'est le grand Mandela qui disait que c'est l'oppresseur qui détermine la nature de la lutte. C'est vrai que nous avons des choses à reprocher au gouvernement ou au régime vis-à-vis de l'ouverture des espaces de liberté, mais je pense qu'il appartient à l'opposition togolaise de trouver les moyens de contourner le blocus que le gouvernement a placé.
Merci beaucoup, chers confrères. Fimet Akouabo, merci d'être passé. Thierry Afanoukoui, merci d'être passé. Cyril Sablassou, merci d'être passé. Adjaro, Gabin, merci d'être passé. Monsieur Kofi, merci d'être passé aussi. Nous étions avec monsieur Nyamekou Koudjo Nestor, et secrétaire général adjoint alors de Saint-Banque, chargé des assurances. Et monsieur Bombama et Pakidam et Camille, et secrétaire général de Saint-Banque, chargé des sections banques. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci pour votre intervention au Club de la Presse, bien sûr, pour ce jour. Et qui ça a été à la mise en onde? Jérôme Akoutsa a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Moi, je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, et une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribué au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.